soit à Grenoble ou à Chambéry, et ça permet de voir du dessus ce halo de pollution lumineuse qui est renforcé encore quand on a des nuages et qui nous gâche la vision des étoiles. Alors on va voir un petit peu quels sont les impacts et qu'est-ce que tout ça génère. Alors au départ, donc, nous, on est sensible de base au ciel étoilé, parce qu'en tant qu'astronome, on a la chance d'aller dans des endroits où il n'y a quasiment pas ou très peu de pollution lumineuse. Là, c'est le cas d'un observatoire où on a tous les deux travaillé. Moi, j'ai passé 7 ans au Chili, au Very Large Telescope, donc c'est un observatoire qui est situé dans l'Atacama au Chili. Et Fabien a aussi fait pas mal de missions d'observation avec les grands télescopes là-bas. Et donc c'est quand on arrive sur place, on est vraiment époustouflé par cette vision du ciel étoilé. On pourrait, on dit que le ciel est sombre, mais en fait il y a tellement d'étoiles et la Voie lactée nous paraît vraiment très lumineuse. On a l'impression qu'on pourrait lire un journal sous les étoiles. C'est vraiment une expérience sensible qui est très très marquante. Et on peut voir des phénomènes lumineux qu'on n'a pas l'occasion de voir en France métropolitaine, comme par exemple là ce que vous voyez. La photo est un peu saturée sur l'écran, mais ce que vous voyez, c'est un phénomène qui s'appelle la lumière zodiacale. C'est des petites particules de poussière qui sont situées autour de l'orbite terrestre. Et quand il n'y a pas de lune et que le soleil vient de se coucher, ces petites particules vont diffuser encore la lumière du soleil et vont former une sorte de pinceau lumineux. Donc dans l'axe de ce qu'on appelle l'écliptique, c'est-à-dire le plan dans lequel orbitent les planètes. Donc voilà, c'est le genre de phénomène qu'on arrive à voir sur des sites vraiment très sombres. Alors dans les Alpes, nous on est quand même bien dotés, hein, parce que dès qu'on monte un peu en altitude, on peut s'affranchir du halo lumineux et arriver sur des très très beaux sites. Là c'est le site où il y a un observatoire astronomique qui s'appelle le Plateau de Bure, vous connaissez peut-être, donc c'est dans le Dévoluy. Et on a un radiotélescope qui est installé là-haut, c'est quasiment à 3000 mètres, un peu moins de 3000 mètres. Donc c'est des grandes antennes, c'est pas tout à fait des télescopes optiques. Mais on a aussi un ciel très noir à ces altitudes, et c'est l'intérêt donc d'avoir des montagnes juste à côté. Et puis ça permet aussi d'avoir un ciel bien sombre, ça permet aussi de voir des phénomènes lumineux très, très intéressants. J'ai mentionné la lumière zodiacale, là vous en avez un autre, on a eu de nouveau de la chance d'en voir il y a un mois. C'était début janvier, pour ceux qui ont pu observer donc, au nord. Et donc là, c'est une photo qui a été faite depuis la Chartreuse, lors de l'événement de mai 2024, où il y avait eu beaucoup d'aurores boréales, donc une forte activité du soleil qui a généré des phénomènes lumineux superbes aussi dans le ciel. Alors, donc je reviens à notre problématique de pollution lumineuse. Qu'est-ce que c'est la pollution lumineuse? Donc c'est la lumière artificielle qui est émise par nos activités anthropiques. Et ça va perturber pas mal de choses. Déjà, on perd notre lien au ciel étoilé, donc il y a une perte culturelle, scientifique aussi, parce que pour faire nos recherches, par exemple, on a besoin de capter la lumière des étoiles. On travaille avec les photons que nous envoient les étoiles, qui nous donnent plein d'enseignements sur notre place dans l'univers, par exemple. Mais ça a aussi des effets beaucoup plus terre-à-terre sur les écosystèmes en général, la vie, la santé, et puis aussi des conséquences économiques. On parlera aussi, notamment, ça a donné lieu à des extinctions de cœur de nuit. Beaucoup de municipalités éteignent en cœur de nuit maintenant la lumière pour des questions énergétiques. Alors, en France, tout le territoire maintenant est touché par la pollution lumineuse. Là, vous avez une carte de la France qui montre un petit peu les régions qui sont encore un peu plus épargnées. Donc nous, on est par ici. On est par ici dans les zones qualifiées ici très élevées. Dans le sens où on ne peut plus voir la Voie lactée depuis Chambéry ou depuis d'autres métropoles. Mais il y a encore quelques zones qui sont un peu plus préservées. On a notamment des réserves internationales de ciel étoilé. La plus proche de nous est située dans le Vercors, où il y a encore des qualités de ciel vraiment remarquables. La Corse aussi est un très bon site encore un peu épargné. Alors en tant qu'astronome, les astronomes professionnels en fait ont été les premiers lanceurs d'alerte sur ce problème de pollution lumineuse. Ça s'est passé dans les années 50, à peu près un petit peu avant, parce que les grands observatoires au départ avaient été installés pas très loin des villes parce que c'était plus commode. Et puis rapidement, à cause de l'étalement urbain, ils ont bientôt plus été capables de voir suffisamment d'étoiles ou de galaxies, et donc ils ont dû déplacer leurs observatoires. Le cas de cet observatoire est remarquable, c'est l'observatoire du mont Wilson en Californie, c'est là-bas que Edwin Hubble a fait ses premières mesures de l'expansion de l'univers, donc là c'était en 1927, donc on est juste au-dessus de Los Angeles. Et voilà un peu l'évolution de la vue, donc depuis cet observatoire vers la mégalopole de Los Angeles entre 1910, 1925 et puis 2002, où là on a vraiment un étalement urbain énorme. Et donc le ciel maintenant là-bas est très pollué. Et alors j'ai pris cet exemple, mais on aurait pu prendre aussi l'exemple de l'observatoire de Paris par exemple. En plein cœur de Paris, il y a un observatoire qui a longtemps fait beaucoup d'observations, et puis maintenant depuis les années 1950, il fait plus du tout de science parce qu'on est complètement plongé dans ce halo lumineux. Alors donc maintenant, on a à peu près les trois quarts des grands observatoires qui sont impactés par la pollution lumineuse. Par grand observatoire, j'entends les observatoires avec des télescopes de plus de 3 mètres. Donc c'est déjà des gros télescopes. Là, vous voyez un graphique un petit peu de tous ces observatoires de plus de 3 mètres. Et la taille de chaque barre d'histogramme représente la luminosité du ciel en pourcentage de luminosité naturelle. Donc vous voyez que les meilleurs sites, donc c'est par exemple celui-ci, c'est l'observatoire du VLT à Cerro Paranal dont je vous ai montré la photo. Ce site-là qui est le meilleur, la luminosité artificielle du site, donc due à la pollution lumineuse, est légèrement en dessous du pourcent. Donc on peut considérer qu'il est encore peu impacté, mais malheureusement les trois quarts, donc à partir de là, les trois quarts des autres observatoires sont touchés et ont un ciel qui est déjà 1% plus lumineux que sa luminosité naturelle, ce qui peut gêner donc pour les observations professionnelles quand on va vouloir par exemple observer des galaxies très très faibles, qui sont soit très loin, soit qui ont émis des signaux il y a très longtemps, et ben ça va être plus compliqué de les observer depuis ces sites. Alors donc ça c'était pour l'aspect perte scientifique, mais on a aussi une perte culturelle plus largement, parce qu'en fait le ciel étoilé est aussi lié à tout un tas d'émotions. En fait, quand on est face à un ciel qui est particulièrement pur, où on peut voir des galaxies, par exemple la galaxie d'Andromède est visible sous un beau ciel sans pollution lumineuse, quand on voit ce type d'objet, et ben on va s'étonner, s'émerveiller et se poser des questions sur notre place dans l'univers, par exemple. Et il y a une étude qui a essayé de quantifier un petit peu ça. C'est la seule, hein, d'après ce que je connais, mais c'est une étude qui est basée aux États-Unis qui montre qu'effectivement, on a une corrélation entre les régions où il y a peu de pollution lumineuse, parce qu'il y a peu de grandes mégalopoles, par exemple, et l'intérêt des citoyens pour la science en général et pour l'astronomie en particulier. Donc il y a plus de personnes qui vont poursuivre des études scientifiques ou des études ensuite en astronomie dans des endroits où le ciel est sombre et où on a l'occasion de s'émerveiller face à l'univers. Et c'est vrai que quand on sort de chez soi et qu'on a l'occasion de constater, de contempler un beau ciel, c'est quand même une expérience sensible vraiment, vraiment intéressante. Et là, vous voyez à droite une des photos du Vercors. Donc, je vous disais que le Vercors est une réserve internationale de ciel étoilé. C'est un label qui est donné à certaines régions particulièrement sombres. Et vous avez justement une photo de la Voie lactée qui se dessine verticalement au-dessus du parc du Vercors. Alors, donc, ça a des impacts culturels, mais ça a aussi des impacts écologiques et sanitaires. Alors là, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits là-dessus. En fait, les astronomes professionnels ont plutôt lancé l'alerte sur le problème de pollution lumineuse. Ensuite, c'est plutôt les astronomes amateurs qui ont pris le relais, parce que c'était eux qui étaient essentiellement gênés quand ils voulaient observer le ciel. Ils vivaient plutôt en ville et ils avaient à faire des distances de plus en plus grandes jusqu'à pouvoir trouver un site adéquat pour observer les étoiles. Et puis ensuite, c'est vraiment les personnes, les chercheurs qui travaillaient en biologie ou en écologie qui ont repris un peu le flambeau et qui ont vraiment lancé, qui ont alerté sur le fait que la pollution lumineuse a beaucoup d'effets sur la vie en général. Alors, il y aura plein de choses à dire, je vais juste mentionner quelques impacts. Déjà sur les insectes, donc la lumière attire les insectes, ça, tout le monde l'a constaté. Les études qui vraiment explique pourquoi un papillon de nuit, par exemple, va tourner autour d'un lampadaire sont en fait très récentes. Je crois que c'était il y a 2 ans, il y a eu un article dans Nature qui expliquait quel est le comportement de ces insectes. En fait, il va se mettre dos à la lumière, et puis comme il a, en l'absence de lumière artificielle, en fait, le seul gros spot lumineux qu'on peut voir la nuit, c'est la Lune. La Lune qui est un objet très très loin, donc un insecte qui va garder la Lune sous un même angle, elle va avancer en ligne droite. Or, si c'est un lampadaire qui est vraiment très très proche, il va tourner autour du lampadaire et finalement il va s'épuiser à faire ce mouvement. Donc, il y a un article tout récent là, qui explique ce phénomène. Donc il y a environ 150 insectes qui meurent chaque nuit autour d'un spot lumineux. Et puis sachant qu'on a plusieurs millions de spots lumineux en France, ça fait rapidement pas mal de biomasse qui meurt sous ces effets-là. Ensuite, on a les chiroptères. Alors, pour les chiroptères, c'est les chauves-souris. Il y en a certaines qui vont être lucifuges, qui craignent la lumière, et puis d'autres qui vont plutôt bien aimer la lumière, ou du moins qui vont utiliser les lampadaires pour aller chasser autour, parce qu'ils ont bien compris qu'il y a plus d'insectes qui sont là autour. Donc, pour ceux qui fuit la lumière, ben là l'impact de pollution lumineuse est énorme parce que ça va morceler leur territoire, ils vont plus pouvoir, il suffit qu'il y ait une route ou une rue éclairée par exemple pour que ça puisse constituer un mur infranchissable pour eux, donc vraiment leur territoire est morcelé. Mais en fait, même pour les petites chauves-souris qu'on a l'habitude de voir l'été, par exemple les pipistrelles qu'on a même en ville, le fait de donc elles vont se concentrer autour des lampadaires, mais en fait elles se repèrent grâce à une technique qui s'appelle l'écholocation en émettant un sonar. Et on ne va pas pouvoir concentrer plus de 2-3 individus autour d'un lampadaire parce que sinon il y a des interférences entre leurs sonars. Donc concentrer la ressource vraiment autour de certains spots lumineux, ce n'est pas non plus bon sur le long terme pour eux. Donc c'est délétère dans tous les cas. Ensuite, on peut citer aussi les rapaces nocturnes, qui sont des espèces qui sont vraiment, qui ont évolué pour pouvoir vivre la nuit. Donc, ils ont des ouïes très sensibles, des yeux très très sensibles et très faible quantité de lumière, dans le but de pas être, donc ils sont très très discrets, ils veulent pas être vus par les proies qu'ils vont capturer. Et donc, si il y a de la lumière, ben, les proies vont plus facilement pouvoir les détecter. Et donc, ils perdent tous ces atouts que l'évolution leur a donnés. Les oiseaux migrateurs, il y a pas mal d'études aussi qui montrent qu'ils utilisent la Lune, la position des étoiles pour se repérer. Il y a des expériences intéressantes qui montrent, qui sont faites dans des planétariums, donc des endroits fermés où on a reproduit la voûte céleste dans le ciel avec la position des étoiles. Et en fait, les oiseaux ne partent pas dans n'importe quelle direction, ils sont capables de repérer les étoiles dans le ciel pour avancer dans la bonne direction et savoir où aller, donc monter au nord en été ou redescendre au sud en hiver. C'est assez fou toutes ces adaptations. Il y en a certains qui utilisent aussi qui ont des boussoles incluses, notamment le rouge-gorge pour mesurer le champ magnétique et accompagner, en fait, utiliser à la fois les étoiles et le champ magnétique. En fait, la pollution lumineuse touche pas seulement les espèces qui sont nocturnes, mais aussi les espèces diurnes. D'ailleurs, pour les oiseaux, l'essentiel des oiseaux migrent la nuit. Et pour les espèces diurnes, quand il y a de la pollution lumineuse, leur cycle de vie va aussi être modifié. Ce qu'on constate notamment en ville où il y a pas mal de lumière, c'est que les oiseaux vont commencer leur activité plus tôt et la finir plus tard. Donc ils vont commencer à chanter beaucoup plus tôt, par exemple, et aussi finir de chanter beaucoup plus tard en journée par rapport à les mêmes oiseaux dans des endroits où il n'y a pas de pollution lumineuse. Et en général, ça participe à une sorte d'épuisement, ils ont un système immunitaire qui est moins bon, ils vont être plus sensibles aux maladies. Donc là aussi, ça a des impacts négatifs. Donc, de manière générale, donc sur les mammifères sauvages, donc on a ce phénomène de morcellement que j'ai mentionné aussi pour les chauves-souris. Quand il y a des corridors qui sont éclairés, qui sont sur leur territoire, c'est pour ça qu'on essaie de recréer notamment ce qu'on appelle des trames noires, donc des zones qui vont rester sombres, qui vont permettre aux différents mammifères de communiquer, de mieux circuler dans leur espace. Et puis donc même pour les humains, hein, la lumière a un effet qui est délétère. Il y a pas mal d'études qui montrent les effets de la lumière bleue, notamment sur la rétine. Il y a eu un prix Nobel notamment qui a étudié le rythme circadien, qui est l'alternance jour-nuit. Et quand on n'a plus cette alternance, il y a plein de problèmes liés à des impacts hormonaux, des troubles anxieux, des problèmes de cancer. Il y a beaucoup de recherches sur ces thématiques. Voilà un petit peu pour un panel un peu global, en prenant quelques exemples précis, mais on pourrait y passer énormément de temps là-dessus. On va maintenant plutôt continuer un petit peu la discussion sur les mesures qu'on peut faire de pollution lumineuse. Et puis, je vais passer la main pour ça à Fabien.
Merci. Donc là, on va plutôt s'intéresser à la mesure de la brillance du ciel, donc de la pollution lumineuse. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que en fait, la pollution lumineuse dans nos villes, c'est quelque chose d'assez récent. À la fin du 19e siècle, Van Gogh était capable de peindre la Grande Ourse au-dessus de Paris. Et ça, juste imaginer aller à Paris et voir la Grande Ourse, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible de nos jours. Et donc, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et on s'est assez rapidement inscrit dans la dynamique du jour de la nuit, qui est une dynamique faite par l'association Agir pour l'environnement, qui date depuis 2009, et qui, chaque année, incite les communes à éteindre leur éclairage pour sensibiliser, faire des actions de sensibilisation astronomique ou autres. Avec les habitants des villes. Et donc, nous, depuis 2014, on a accompagné la ville de Grenoble, mais pas que, aussi les autres communes autour, dans la sensibilisation à l'observation des astres à ce moment-là. Et du coup, on a été amené à discuter avec des services techniques des communes, mais aussi des élus. Et assez rapidement, on nous a posé la question, on fait des politiques, on essaye d'avoir des politiques de baisse de l'éclairage public, hein, l'éclairage nocturne, et on aimerait savoir si ça a un impact. Donc est-ce que ça se voit ou pas, et est-ce que ça a un impact sur tout ce que vous avez entendu tout à l'heure. Et donc, assez naturellement, avec Julien, on s'est dit, on va essayer de travailler là-dessus, et il se trouvait qu'on avait de l'instrumentation au-dessus de notre observatoire qui permettait de faire les mesures. Donc là, ce qu'on vous montre déjà, c'est jour de la nuit, c'était 2021, il faisait des nuages, donc on n'a pas pu faire d'observation astronomique, mais c'est intéressant parce que on voit que quand on arrive à éteindre une ville ou une partie, un quartier de ville, on arrive à baisser la luminosité qui est réfléchie par les nuages, dans ce cas-là, qui est la pollution lumineuse. Donc là, ça refait avec la partie de la ville qui a été éteinte. Hop, voilà. Et si on fait des mesures, alors en fait, je vous montrerai un peu plus tard, je vous montrerai des photos de notre instrumentation. On a fait des mesures, donc ça c'était en 2022, il faisait très beau, il n'y avait pas de nuages, et on a pu faire des mesures de luminosité. Alors, je ne sais pas si juste après on a... Non, c'est bon. Donc en bleu, c'est le 15 octobre 2022, le jour du jour de la nuit. Et ce que vous avez ici, c'est un graphe de la brillance du ciel, mais à l'envers. C'est-à-dire que plus les chiffres sont bas ici, plus le ciel est obscur et plus il est élevé, plus il est lumineux. Et en orange, ce que vous avez, c'est mesure pareil au cours de la nuit. Vous voyez les heures ici. Et donc vous voyez que le lendemain, le ciel est plus brillant. Il y avait les mêmes conditions météorologiques, évidemment, c'est ça qui est important. Et on a montré qu'en fait, si vous mesurez en pourcentage relatif de la luminosité, on était capable qu'en 21h et 23h, la durée de là à là, le jour de la nuit, on a le 15 octobre, on a eu 15%, entre 10 et 15% de pollution lumineuse en moins. Donc vous voyez quand même qu'on est toujours à des niveaux de 19 magnitudes par arc seconde carré, et 19, si vous regardez dans cette table-là, on est quand même toujours très mauvais. C'est pas parce que une partie de la ville de Grenoble avait été éteinte qu'on avait gagné grandement en qualité de ciel. Alors comment on fait quand on fait des mesures, avec ces mesures-là, quand on le fait sur toute l'année, on s'aperçoit qu'on a donc on a des graphes toujours pareils en fonction du moment de l'année, moment dans la nuit, où on va faire des mesures de points. Et les points que vous avez ici, c'est toujours pareil, vous avez un ciel brillant et un ciel sombre. Donc vous voyez que là, bon, il y a des moments où on va avoir des nuages, donc on va avoir un ciel plus lumineux. D'ailleurs, je pense que si on avance comme ça, ça décrit ce qu'on voit. Donc on va avoir une surdensité pour des conditions nuageuses à ce niveau-là. Ensuite, vous avez les conditions de ciel clair, c'est là où c'est vraiment concentré. C'est ça qui va nous définir la qualité de ciel. Et vous voyez qu'on est à 19,5 et 19,7, le plus bas. Et vous pouvez voir que, par exemple, nous, on est sur le campus, on ne voit pas très bien ici, mais il y a une petite baisse de la brillance du ciel qui est due à l'extinction du campus. Et puis après, vous avez des profils de descente et de remontée asymétriques qui sont dus à l'extinction progressive des différentes communes aux alentours et puis après le réallumage de l'éclairage nocturne. Donc tout ça, c'est fait avec ces instruments-là. L'instrument que je vous ai montré, c'était principalement celui-ci, qui regarde en une seule direction à la verticale. Mais on a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette caméra-là, qui est une caméra fisheye, qui regarde vraiment très grand angle. Et elle a été installée non pas pour nos objectifs, mais pour détecter les entrées de bolides dans l'atmosphère, ce qu'on appelle les étoiles filantes, et pour identifier où les météorites tombent au sol en faisant de la triangulation. Et donc, elle a été installée en 2016, et donc depuis 2016, on a des archives de données qui nous ont permis de calculer, mesurer la brillance du ciel en fonction du temps. Et voilà ce que ça donne. Donc en 2016, on avait une qualité moyenne, dans les jours où il n'y avait pas de nuages, de 18,7, et vous avez vu, vous voyez qu'on arrive à 19,04 en 2023. Alors c'est toujours perturbant, hein, quand ça augmente, c'est que la qualité est meilleure. Mais globalement, sur Grenoble, en 8 ans, on a pu répondre à la question des gens qui travaillaient à la ville de Grenoble et à la métropole. La brillance du ciel au-dessus de notre observatoire a diminué de 30%, à peu près 4% par an. Et vous voyez que les descentes se font par étapes, et il y a une grosse descente entre 2022 et 2023, parce que beaucoup de communes ont décidé aux alentours de Grenoble d'éteindre à ce moment-là, à cause de la crise énergétique. Et on arrive sur Google Earth. Alors là, c'est sur Chambéry. On s'est dit que nous, on travaille à Grenoble pour montrer ce qu'on a fait sur Grenoble. On n'a pas d'observation sur Chambéry. Mais par contre, il y a une carte qui peut être faite par satellite qui permet de mesurer les sources finalement d'éclairage et qui permet de voir que y a des zones qui sont plus ou moins. Là, vous avez un petit cinéma qui montre que. Globalement, ça a tendance à se réduire. Donc, peut-être qu'il faut que je revienne en arrière et je relance. Donc là, c'est 2014-2015. Vous voyez que les zones noires ont tendance à s'agrandir, les zones lumineuses à se rétrécir. Parce que, en fait, toutes les communes ont un peu cette politique d'essayer de réduire l'éclairage nocturne. Donc, ma batterie est faible, ça va s'arrêter. Je vais. On a une
fois. Sinon, on relais pendant que tu mets le.
Ouais, vas-y, pars.
Je vais juste me montrer autre chose, peut-être un peu. J'appris à la vie. En fait, on a. Donc, ça, c'était des mesures qui sont faites par satellite. Ça a des avantages et des inconvénients. Il faut garder en tête que c'est un satellite qui n'est pas sensible à toute la lumière, notamment les lumières bleues. Donc, il y a quelques biais. Et puis, c'est un satellite qui passe qu'une fois par nuit. Donc, en général, il passe encore de nuit. Donc on n'est pas sensible aux conditions lumineuses en début ou en fin de nuit, qui sont souvent les crépuscules, c'est un peu des moments critiques pour la faune, et la faune et la flore. Le fait qu'on soit très sombre en milieu de nuit, ça ne nous dit rien sur ce qui s'est passé au début et à la fin. Mais c'est déjà super intéressant d'avoir ce type de données, et on peut voir notamment les politiques des communes grâce à ce type de données. C'est ce que je voulais vous montrer là, avec ce qui se passe sur la métropole de Chambéry. On peut voir les moments où les communes ont décidé de mettre en place des extinctions de cœur de nuit, notamment parce qu'on voit vraiment un saut très drastique dans la pollution lumineuse. Et ce qui est très marquant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de communes qui ont décidé d'agir entre 2022 et 2023, au moment de la crise énergétique, au moment aussi du début de la guerre en Ukraine. Les coûts de l'énergie étaient tels que, et il faut savoir que l'éclairage représente un gros budget dans les communes, en moyenne 40%. Donc c'est à ce moment-là vraiment que les communes se sont dit on devrait éteindre en quart de nuit. Oui, ouais, je vais vous montrer. Donc là, c'est.
Alors, je dis peut-être. Non, tu veux. Parce que là, ça va être un peu
difficile. Comme tu veux. J'en ai pas pour longtemps. On pourra revenir un peu pour des questions. Je vous montre juste quelques exemples. Donc là, on a une vue de la ville de Chambéry, par exemple. Si je clique. Donc ça, c'est un quartier de la zone de Chambéry. Donc on peut voir des sauts. Donc je vous disais que beaucoup de communes ont décidé plutôt entre 2022 et 2023 de faire des extinctions de corps de nuit. Là, on voit clairement un. 2022 et 2023. Il y a certaines communes qui ont commencé beaucoup plus tôt. Si je prends par exemple voilà l'exemple de Cognin, on voit que c'est entre 2017 et 2018, alors que jusqu'à 2017, on avait plutôt tendance à augmenter le nombre de points lumineux, et donc ça participait à une augmentation d'éclairage. Là, par contre, il y a eu une décision de faire une extinction en cœur de nuit, qui est très très marquée ici. Puis il y a eu sans doute aussi des rénovations d'éclairage qui ont eu lieu entre 2022 et 2023. Puis il y a d'autres communes, c'est plus progressif. Je crois que si on prend la Motte, il me semblait que c'était plus progressif. Voilà, il n'y a pas forcément de saut très très marqué. Il y a eu des améliorations progressives depuis 2014. Voilà, donc on pourra revenir là-dessus pour les questions si vous voulez après. Je te laisse finir vite fait.
Ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, quand on a de la pollution lumineuse, il y a des sources de pollution lumineuse. Nous, quand on regarde le ciel, on ne voit pas directement les sources, on voit finalement la diffusion de la lumière qui vient du sol. Et ce qu'on voit, c'est que d'après le satellite, il y a une corrélation finalement entre les sources, la brillance des sources qu'on va avoir et la brillance du ciel. Donc si on arrive à baisser les sources au sol, on va baisser la brillance du ciel et donc améliorer et les observations, mais ça va être aussi l'impact, comme on l'a vu à la fois sur les animaux et les végétaux. Donc ça c'est bon. Ah ben voilà, hop, on peut passer puisque tu as fait en direct. Et du coup, je te laisse la main là-dessus.
Donc, je voulais juste aussi revenir sur le fait que cette situation où on vous montre qu'effectivement en France, il y a beaucoup de communes qui pratiquent l'extinction de cœur de nuit, et donc en moyenne, la pollution lumineuse va baisser en cœur de nuit, c'est vraiment quelque chose de spécifique à la France. C'est ce qu'on voit un peu sur ce graphique. Dans beaucoup d'autres pays du monde, la pollution lumineuse est plutôt en augmentation. Donc, c'est toutes les couleurs orange ou rouge, c'est les zones où ça augmente. Et par contre, la France est vraiment dans le vert, donc un saut de moins de 25% entre 2022 et 2023 à cause de ces extinctions et aussi de la législation qui est quand même assez favorable pour diminuer l'éclairage. Si on fait un petit zoom sur ce qui se passe en Europe, voilà, vous voyez que par rapport à nos voisins, on est vraiment une exception.
On arrive au terme de cette présentation. L'idée, c'est d'avoir une discussion. Donc, ce qu'on peut-être résumer ce qu'on souhaite vous dire. Première chose qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que la pollution lumineuse, elle est facile à combattre, il suffit d'éteindre les interrupteurs. Le problème, c'est est-ce qu'on accepte d'éteindre les interrupteurs et d'éteindre la nuit. C'est pas forcément simple. On n'est pas forcément, nous, en faveur de ça, mais au moins avoir essayé de baisser et d'utiliser l'impact. On a de nombreux freins qui existent, hein, notamment les habitudes, la sécurité, les croyances, et c'est quelque chose qu'il faut peut-être travailler. Néanmoins, les impacts sont quand même très importants, et notamment on a vu ça sur les écosystèmes dans les 10 dernières années, même si c'est connu, comme l'a montré Julien, depuis les années 50. Et puis, il y a des naturalistes, hein, des biologistes, qui ont montré que le rôle de la pollution lumineuse est finalement quelque chose d'aussi presque aussi important que l'artificialisation des sols, parce que ça va, vous avez vu les impacts sur les insectes, mais aussi sur les oiseaux et un certain nombre de choses. Et donc on comprend pas encore tout à fait le lien entre le niveau de pollution lumineuse et ces impacts-là. Et donc nous, avec Julien, surtout Julien d'ailleurs, on essaye d'étudier les impacts sur la migration des oiseaux, puisqu'on a la chance à Grenoble, c'est que c'est un couloir de migration des oiseaux, de voir quel peut être l'impact des sources de pollution lumineuse sur ces migrations d'oiseaux. Et puis, comme le disait tout à l'heure Julien, on a quand même, vous avez vu, parmi on va dire, les politiques mondiales sur la pollution lumineuse sont quand même très en avance en France. Néanmoins, il faut faire attention. Souvent, on s'attache au cœur de nuit, donc c'est important, mais beaucoup de l'impact a lieu au moment du crépuscule ou à l'aube. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faudrait pouvoir aussi agir. Et ça, c'est vraiment en interaction avec les activités humaines. Et donc, il faut un dialogue. Et du coup, c'est ça qu'on finir par ça, parce qu'on ouvre le dialogue avec vous pour pouvoir essayer de répondre aux questions auxquelles on pourrait répondre, mais peut-être aussi d'aborder des sujets que nous, on ne maîtrise pas forcément. Merci.
Merci infiniment pour cette présentation extrêmement claire et merci aussi pour le focus sur Chambéry et son agglomération, ce qui est beaucoup plus éclairant pour nous. Voilà, donc c'est le temps des questions et voilà, vous connaissez le principe.
Est-ce qu'il y a un impact sur la faune entre la pollution artificielle et puis par exemple les nuits de lune, de pleine lune, tout ça?
Et par exemple, j'ai pas compris les pleines lunes.
Est-ce qu'il y a un impact, est-ce qu'il y a une différence d'impact entre sur la faune entre la lumière artificielle et la nouvelle lune, par exemple, la lumière naturelle?
Oui, très bonne question. C'est vrai que j'ai une illustration que j'aime bien montrer, je ne l'ai pas là tout de suite sous la main, mais les insectes, donc s'il n'y a pas de pollution lumineuse, les insectes notamment ont une activité qui est vraiment réglée par la lune, par les cycles lunaires. Donc par exemple, c'est le cas aussi des rongeurs, des souris, des rats par exemple, quand c'est des nuits de pleine lune où il y a beaucoup de lumière, ils vont être facilement repérables et ils vont peu sortir. Et par contre, quand c'est des nuits de pleine lune où c'est très sombre, ils sont moins repérables par leurs prédateurs et ils vont avoir une activité beaucoup plus marquée. Et donc on peut montrer comme ça sur plein d'espèces que vraiment ils ont une activité qui est cyclique pendant un cycle lunaire. Et la pleine lune, en termes d'illumination, c'est 0,5 lux. Alors le lux, c'est encore une unité qu'on utilise pour qualifier l'éclairement. L'éclairage artificiel, ça génère plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines de lux. Donc on est à des niveaux qui sont 10 ou 100 fois le niveau de ce que ferait la nature, c'est-à-dire la pleine lune. Donc ça a forcément des impacts énormes, puisque en l'absence de lumière artificielle, les animaux se calent vraiment sur les cycles lunaires, et là ils sont soumis à des pressions d'éclairement qui sont 10 ou 100 fois plus fortes. Je ne sais pas si c'était ça votre question.
Est-ce que la lumière, la nuit et tout ça provoque aussi de la photosynthèse supplémentaire sur la végétation?
Il y a eu des études, justement, on n'a pas parlé des végétaux parce que les impacts sont tellement nombreux qu'on peut y passer une heure à décrire ce genre de choses. Mais vous pouvez remarquer que des arbres qui sont situés près de candélabres vont avoir des feuilles qui vont rester plus longtemps sur l'arbre parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'il y a plus de lumière, plus le jour s'étend et donc il y a de la photosynthèse qui se fait. Donc il y a un vrai impact aussi sur les végétaux.
Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un impact de la qualité de la couche d'ozone sur la pollution lumineuse qui peut être absorbée ou réfractée?
Je pense pas, la couche d'ozone est très très haute de mémoire, c'est...
Oui, elle est haute, du coup,
80 km, non Donc à ces altitudes-là, en fait, il n'y a plus assez de... Ce qui va générer de la pollution lumineuse, c'est la diffusion de la lumière qui est mise par le sol par des petites particules. Ça peut être, on voit notamment quand il y a beaucoup de pollution, par exemple aux particules, les PM2.5 ou PM10, les particules de 10 microns, ça va diffuser énormément la pollution, ça va diffuser énormément la lumière et ça crée un halo de lumière. Par contre, à ces altitudes-là, il n'y a plus assez de particules pour diffuser la lumière. Donc je ne pense pas qu'il y ait de lien avec la couche d'ozone.
Merci. Bonjour, et merci aussi pour votre présentation, c'est très intéressant. Par rapport à l'extinction des luminaires par les communes, est-ce que la prise de conscience elle est uniquement financière, ou est-ce qu'ils ont aussi une prise de conscience sur l'impact environnemental des
Alors ça va dépendre des communes. Alors c'est intéressant parce que nous, on est des interlocuteurs des différentes communes qui peuvent nous interroger. Et souvent, ce que nous disent les communes, c'est que quand ils commencent à entrer dans une démarche d'extinction de baisse, s'ils font appel à des vulgarisateurs comme on peut être, ça va aider à prendre conscience pour les habitants de l'impact que ça peut avoir. Et souvent, c'est mieux accepté. Il y a des communes qui n'ont pas fait appel et qui ont souvent des blocages qui sont naturels, hein, puisqu'on change des habitudes. Les gens se demandent comment ils peuvent faire. Moi, je reprends souvent une anecdote qu'on a eue, parce qu'on a eu des rencontres avec des maires ou des mairesses de la région, et donc une qui était une mairesse qui était du Vercors, qui avait très envie de baisser l'éclairage de sa commune. Elle était très convaincue, elle avait fait une réunion de présentation, et elle était face à des personnes âgées qui disaient, mais écoutez, chez nous, on n'a pas de trottoir, quand on sort, il nous faut quand même un peu de lumière pour pouvoir se déplacer. Et elle leur a dit, ah oui, mais je comprends tout à fait, et elle leur a remis une torche, tout simplement, et les gens étaient très contents. En fait, souvent les besoins, on a un peu tendance à généraliser nos besoins en imaginant que la lumière allumée toute la nuit, ça nous aidera pour les quelques minutes où on en a besoin. Mais en fait, quand on discute avec les habitants, souvent ils s'aperçoivent que ils ont un besoin précis, et si on répond vraiment à ce besoin, c'est naturel. Donc du coup, ça me permet d'enchaîner sur le fait que on plaide souvent sur le fait d'allumer quand c'est nécessaire, c'est-à-dire éviter que ça soit allumé tout le temps. Par exemple, une des problématiques qu'on a sur Grenoble, c'est que pour les lignes de tram, les rues les plus éclairées sont celles qui sont où il y a les lignes de tram, parce qu'en fait, il n'y a pas d'éclairage prévu par ces lignes de tram, et donc c'est l'éclairage de la rue qui le fait. Et on essaye, alors il n'y a pas d'obligation, et quand il y a des baisses d'éclairage, les conducteurs se plaignent. Néanmoins, il y a eu des tests qui ont été faits dans les rues de Grenoble qui ont montré qu'entre 80% de la puissance et 10%, finalement, les conducteurs ne voyaient pas trop la différence. Donc il peut y avoir des seuils sur lesquels on peut descendre pour pouvoir avoir cela. Et puis après, en discutant avec les personnes qui sont chargées de la réglementation du tram, on s'est aperçu aussi que l'éclairage des trams était basé sur le matériel ferroviaire qui n'a eu pas cette capacité à éclairer loin devant. Quand un bus va en montagne, on ne demande pas que la route soit complètement éclairée tout le trajet. Ils sont capables d'éclairer devant, c'est pareil pour le tram, mais ce n'était pas prévu au départ. Donc ils sont en train de travailler à ces changements d'habitude de pouvoir éclairer quand ils passent.
Rapprochez
votre micro.
Oui, pardon. Donc je disais, j'habite dans une résidence privée, il y a l'éclairage qui a été refait au sein de la résidence, donc c'est privé, et au niveau de combien de temps allumer la nuit. Et en fait, comme je pense que les gens ne voient que le côté financier et pas le côté environnemental, leur argument c'était on a peur. Et comme vous dites, pour 5 minutes de trajet dans la nuit encore. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, est-ce qu'ils ont bien conscience qu'il y a d'autres impacts que de la pollution lumineuse que sur leur porte-monnaie.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a un appareil de vision qui est adapté à la vision nocturne aussi. On l'utilise très peu, on utilise surtout notre système diurne avec des cônes qui nous permettent de voir les couleurs. Mais on a des bâtonnets, on a des millions de bâtonnets au fond de l'œil qui nous permettent de voir une vision beaucoup plus faible. Il faut encore l'exercer, il nous faut un peu de temps d'adaptation. Et souvent c'est pour ça que nous on a tendance à dire qu'il faut baisser un peu l'éclairage, et les gens s'en aperçoivent pas forcément, mais néanmoins ils gardent leur capacité à distinguer les détails. Ce qui est plus pénalisant, c'est finalement les problèmes de contraste. Avec une source, alors surtout en plus avec les voitures qui maintenant ont des éclairages LED très puissants, et c'est ça qui va faire qu'on va avoir une zone qui nous apparaît très noire à côté d'une zone très brillante.
Et à force, elle devient, on arrive à appréhender quand même un peu.
Exactement.
Il y a quelques mètres en général où on est complètement aveugle.
Alors je vous conseille de voir l'exposition qui est là, parce que Hein, je fais un peu de pub. Parce que je crois que. Alors, je ne l'ai pas vu complètement, je dois la voir après la conférence pour voir les détails, mais je crois que justement que ça aborde un peu ces questions-là de qu'est-ce qu'on voit la nuit, qu'est-ce qu'on a besoin de voir la nuit. Et après, il y a tout l'aspect culturel aussi, parce que l'aspect culturel, c'est qu'on associe la nuit à tout ce qui est difficile, des choses négatives. Quand on est enfant, ben, on va dire attention, tu vas te retrouver dans le noir. Il y a des associations culturelles très fortes, alors que le noir total n'existe pas. Vous sortez la nuit, il n'y a pas de nuages, comme disait Julien, quand on est dans le désert d'Atacama, on est éclairé par les étoiles, il n'y a pas de nuit absolue. Donc il faut aussi casser peut-être aussi cette association de la nuit, de l'obscurité avec des choses négatives. Donc ça c'est pas simple, mais on s'y emploie un petit peu.
Et l'éducation.
Ouais, et à côté éducatif.
Alors, moi je voulais aussi savoir s'il y avait si le changement d'heure deux fois par an peut avoir une répercussion sur la pollution lumineuse. On se retrouve à avancer d'une heure ou à reculer d'une heure et du coup on change complètement. Une heure c'est quand même énorme à certaines époques, notamment l'hiver, et où là on se retrouve obligé d'utiliser la lumière alors que. Le jour d'avant, voilà. Donc, est-ce que vous avez une unité de mesure par rapport à ça? Est-ce que vous avez pu constater des choses à ce niveau-là? Parce que c'est vrai qu'il y a toujours, ça a été décidé dans les années 70. Hein.
Après le
choc pétrolier. Oui, voilà. Ouais. Et là, aujourd'hui, on a toujours. C'est toujours une période de l'année qui est décriée où tout le monde critique et tout ça. Alors on se demande vraiment si ça sert encore. Mais bon, on ne peut rien faire. L'Europe et les autres pays ont leur mot à dire. Je voulais savoir s'il y avait une répercussion aussi avec cette histoire-là.
Alors, en termes de mesures, c'est sûr que nous, on peut avec les exemples qu'on vous donnait de capteurs qu'on a pour mesurer la pollution lumineuse, c'est sûr qu'on voit tout de suite quand il y a un décalage d'une heure, que c'était avancé d'une heure ou pas, on voit très bien que le halo lumineux commence plus tôt ou plus tard en fonction du décalage, ça c'est certain. Après, je ne saurais pas plus s'il y a des impacts.
Ça veut dire que si vous voyez un décalage quand il y a donc le changement d'heure, est-ce que ça se réaligne au niveau de. Parce que forcément, si on avance une heure, ça décale, mais ça décale aussi en fin de journée. Est-ce qu'on rétablit une sorte d'équilibre ou alors on perd vraiment. Enfin, je ne sais pas comment exprimer les choses. Est-ce qu'on arrive à rééquilibrer à la fin de la journée, ce qui fait que finalement ça ne change pas grand-chose, ou est-ce qu'on a quand même un impact notable voilà. Et en l'occurrence, si on devait avoir une heure, rester sur une heure et ne plus changer, est-ce que ce serait mieux de garder l'heure d'été ou l'heure d'hiver? Voilà.
Oui. C'est intéressant de discuter parce que c'est des questions que nous on n'a pas complètement abordées, du coup ça nous pose des questions, donc on n'aura pas de réponse toute faite, mais on peut essayer de réfléchir en temps réel. Ce que ça va changer, c'est ce que disait Julien, nous on travaille en ce qu'on appelle le temps universel. Donc nous, le soleil, c'est en fonction de l'heure du coucher du soleil et l'heure de. Et il se couche par rapport à notre position, il se couche toujours à la même heure en temps universel. Donc ça ne change pas grand-chose. Par contre, ça va changer les heures d'extinction à partir du moment lesquelles elles vont se faire. Et puis, on va voir aussi les activités humaines. Elles ne sont pas du même ordre si on est en début ou en fin de nuit. Mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, qu'on pourrait regarder dans nos données pour voir s'il y a un impact. On n'a pas regardé ça, donc on regardera pour voir s'il y a un impact. Après, de ce que j'ai compris, alors je ne me rappelle plus l'heure d'hiver, est-ce qu'il fait plus nuit, plus rapidement? En tout cas, nous, on fait des observations. Ce que je peux dire, c'est que nous, en tant qu'astronomes, on fait des soirées d'observation ouvertes au public le mardi soir, à partir du moment du changement d'horaire à l'automne jusqu'au changement d'horaire en mois de mars, pour pas que ça dure trop longtemps. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est à partir de 19h, donc c'est plus tôt, j'ai l'impression que c'est
la nuit commence plus tôt.
Oui, commence plus tôt l'hiver. Ouais. Bon, on n'a pas de. Désolé, on n'a pas d'éléments là-dessus, mais on va regarder, on va réfléchir.
Mais dans tous les cas, la nuit est beaucoup plus longue à cette époque de l'année.
Oui, c'est toujours pareil. Alors après, ce qui est intéressant, par contre, on s'est intéressé un petit peu à ces impacts-là par rapport à la latitude entre les pays comme les nôtres ou les pays nordiques, où les nuits peuvent être très très longues et des jours qui durent peu de temps l'hiver. Alors souvent, les pays nordiques ont adapté des stratégies pour vivre avec ça différentes. C'est-à-dire qu'ils, à la Norvège ou la Suède ou la Finlande, ils n'éclairent pas leur route tout le temps, toutes les nuits, parce que sinon ils auraient des... ça serait... c'est pas possible en hiver. Mais par contre, il y a des réglementations, notamment en Finlande, il y a une obligation pour les piétons d'avoir des objets réfléchissants. C'est-à-dire que si on n'a pas d'objet réfléchissant, on peut avoir une amende pour être vu facilement. Et c'est quelque chose que nous, on propose des fois aux communes, de dire bah, quand ils font de l'extinction, c'est aussi d'inciter les gens à être équipés d'éléments réfléchissants. Ça peut être des éléments très simples. Hein, en Finlande, ça peut être une petite plume, etc. Avec, mais dès qu'il y a un éclairage qui arrive sur ces éléments-là, il est vite détectable. Et ça, au niveau sécurité, en tout cas, la sécurité routière, c'est quelque chose d'important.
Et du coup, sur les sources d'émissions, est-ce qu'on sait un peu hiérarchiser celles qui sont les plus impactantes, n'importe quoi, les quartiers pavillonnaires par rapport à des quartiers des zones industrielles, ouais. Les grands axes villes, voitures ou les...
Alors, merci de poser cette question, parce que c'est quelque chose qu'on est en train de démarrer, puis je laisserai Julien en parler, parce qu'il dépose un projet à l'Agence nationale de la recherche là-dessus. On a la chance, dans nos régions, Grenoble, Chambéry, d'avoir des points hauts qui nous permettent de regarder les sources. Donc à Grenoble, on a identifié trois grosses sources, par exemple, de lumière. C'est l'hôpital, qui est très éclairé. Il y a une source, une plateforme chimique au sud de Grenoble, qui est aussi très éclairée, alors que personne ne travaille la nuit quasiment. Et il y a le CEA de Grenoble. Donc on essaye de travailler avec la métropole de Grenoble pour essayer de voir avec eux si on peut essayer de diminuer cet impact-là, parce que c'est les plus forts. Et ensuite, il y a l'éclairage qu'on appelle privé. Donc, Madame parlait des copropriétés, et c'est important aussi de sensibiliser. Et on s'aperçoit que maintenant, on arrive à peu près à 50% des sources de lumière qui viennent plutôt des parties privées que de l'éclairage public. Et d'ailleurs, les acteurs publics nous disent, nous, on peut bien baisser, mais votre pollution, elle va plus baisser, parce qu'en fait, il faut aller s'attaquer à la partie privée. Et du coup, je laisse Julien parler un petit peu du projet là.
Non, ben, là, les données sur lesquelles on peut travailler pour la pollution lumineuse, c'est essentiellement ce que je vais vous montrer ici. C'est un satellite qui s'appelle VIRS qui produit ces données, mais la taille du pixel, c'est 750 mètres. Donc sur 750 mètres, on n'est pas vraiment capable d'identifier les sources. Et donc, c'est pour ça que, comme on a la chance ici d'être quand même entouré de montagnes et donc de pouvoir faire aussi des photos depuis les sommets. Ce qui est moins cher que de faire passer un avion, par exemple, parce qu'on peut aussi faire des campagnes de mesure par drone ou par avion. Là, on peut faire des photos aériennes et essayer de détecter les sources. Et puis, comme ça, remonter aux contributeurs de pollution lumineuse, et ce serait un des buts là, du projet sur lequel on travaille, pour pouvoir voir la part des grands sites industriels, des hôpitaux, du privé, et puis de l'éclairage public. L'autre façon de faire aussi, c'est de faire des expériences. Par exemple, le jour de la nuit, quand il y a une extinction qui est faite dans une commune ou dans plusieurs communes, on peut essayer de mesurer de combien on va diminuer quand il y a une extinction. Pour l'instant, pour le jour de la nuit, toutes les communes ne participaient pas. Il y avait parfois certains quartiers qui le faisaient, d'autres pas. Donc les résultats sont difficiles encore à interpréter. Mais on aimerait monter un projet avec certaines communes qui vont moduler la puissance au fil de la nuit, et nous on essaierait de démoduler ce signal-là dans les mesures qu'on a pour justement bien quantifier la part d'éclairage public du privé. Voilà un peu.
Peut-être dire aussi que ce projet, il est en lien avec les parcs naturels régionaux de Chartreuse et de Vercors, qui sont très intéressés parce qu'ils sont aussi dans une démarche de baisser l'éclairage, et ils ont besoin d'identifier les sources d'éclairage, notamment privé, pour pouvoir aller faire de la sensibilisation. Donc ils sont très demandeurs, et du coup c'est une partie où les scientifiques travaillent avec les collectivités pour essayer de à la fois d'identifier une méthode et puis d'aller discuter avec les personnes.
Est-ce que l'usage des LED a changé quelque chose?
Oui, bonne question. Donc les LED, ça consomme très peu d'énergie par rapport aux autres types d'éclairage, donc là on parle de sodium par exemple, mais par contre ça envoie aussi énormément de lumière bleue, ce qui n'était pas le cas avant, et ce qu'on
couleur, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt bleu ou plutôt rouge, ça a un impact énorme et la faune, la vie en général est très sensible aux lumières plutôt bleues. Et dans le cas des êtres humains, par exemple, c'est ce qui empêche la sécrétion de mélatonine. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas bon de regarder des écrans avant de s'endormir. Donc cet impact, il est vrai aussi pour toutes les autres espèces animales. Hein, ils vont être beaucoup attirés par tout ce qui est lumière bleue. Et donc les LED, si elles ont un spectre, je dirais, naturel, quand on construit une LED de manière... Enfin, les LED les plus efficaces, elles ont énormément de lumière bleue. Donc ça, c'est plutôt délétère. Et donc parfois, il y a eu un effet rebond, c'est-à-dire que les communes ont pu bien faire en installant des LED très bleues, qui allaient très peu consommer, mais en fait, on a augmenté la quantité de lumière qui était émise, parce qu'à coût constant, en fait, on installait on éclairait davantage. Maintenant, il y a des LED qui existent qui sont donc moins efficaces, mais par contre qui ont un spectre beaucoup plus rouge, qui respectent beaucoup plus les cycles.
Alors, sur Chambéry, ils sont en train de discuter des fameuses LED qui sont passées de bleu à rouge, et ils sont en train de mettre des écrans devant pour justement que la lumière diffuse par terre et non pas vers le ciel. Est-ce que ça a vraiment un impact ou... Parce que ça coûte très cher en fait. Hein. Vous avez expliqué que ça coûtait 35 euros le petit cache, alors qu'on
va... Ah oui, ça a aussi un réel impact parce que la pollution lumineuse, en fait, c'est de la lumière qui est émise depuis le sol vers le ciel. Donc tout ce qu'on peut, si on peut diffuser vraiment la lumière uniquement vers le sol, ça a un impact énorme. Alors après, le sol, si le sol est relativement brillant, forcément il va aussi réémettre vers le ciel. Mais si dès le départ, on a mis des caches, par exemple, pour empêcher la lumière d'aller vers le ciel directement, ça a un énorme impact. Et d'ailleurs, au niveau de la réglementation, maintenant, on ne peut plus installer des choses qui vont émettre, qui vont avoir, se quantifier en termes de quantité de lumière qui est émise vers le ciel par rapport à la quantité qui est émise vers le sol. Il y a des seuils qui sont fixés au niveau de la réglementation. Les lampadaires boules, par exemple, sont interdits.
J'ai une question. Très belle photo sur la Voie lactée. Vous avez dit qu'elle avait été prise dans le Vercors, mais où est-ce qu'on peut voir réellement? Tout au début, pratiquement.
Alors, c'est des photos longues poses, donc c'est un peu triché parce que.
Triché également pour voir. Et moi, je serais bien allé tester mon goût.
Mais oui, c'est des photos longues poses, en général, c'est une
photo
du 30e de
donc. Oui, elle est là, c'est ça. Voilà. Donc, ça, on ne peut pas voir réellement à l'œil nu, quoi. Moi, je veux bien aller me donner l'adresse dans le Vercors, je vais aller voir et faire une.
En fait, peut-être, c'est intéressant de. Et puis, du coup, on pourrait parler. Excusez-moi, c'était. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, l'œil va essayer de distinguer, va voir la lumière des étoiles par rapport au fond. Alors, le fond du ciel, la brillance du fond du ciel, c'est ça qui est limité par la pollution lumineuse. Donc, dans une zone complètement naturelle où il n'y a pas de source artificielle, il y a un certain niveau, c'est ce que montrait tout à l'heure Julien pour les observatoires. En présence de lumière, ça va atténuer le contraste entre les deux. Et donc, si vous vous trouvez dans une ville comme Chambéry ou Grenoble, on a un très mauvais ciel, et donc, du coup, quand vous regardez, vous pouvez voir les étoiles, vous pouvez voir les planètes, mais en gros, vous en détectez une cinquantaine. Si vous essayez de les repérer, 50 mètres, c'est déjà pas mal. Hein. D'en voir quelques-uns, on voit la grande ours facilement, les étoiles qui composent la grande ours. Mais par contre, si vous allez dans un endroit plus obscur, vous allez donc le fond du ciel va être plus noir, et donc vont apparaître d'autres étoiles qui vont arriver. Et donc quand vous arrivez à peu près à voir 3000 étoiles, l'œil nu, il peut voir jusqu'à 6000 étoiles. Les 6000 étoiles les plus brillantes, dans les zones les meilleures, c'est 6000 étoiles. Mais à partir de 1000 étoiles, vous pouvez commencer à voir la Voie lactée. Vous allez avoir une condensation de lumière. Vous allez bien voir qu'il y a beaucoup plus d'étoiles dans cette zone-là. Et après, il faut vraiment rester longtemps parce que ce qui fait la beauté de cette étoile, c'est aussi des nuages sombres qui sont devant. C'est des nuages interstellaires et donc qui sont des zones de formation d'étoiles. Alors là, on peut vous en raconter plein là-dessus, hein, parce que c'est notre domaine. Mais ces nuages-là qui donnent cette couleur-là sombre. Et puis des couleurs peut-être un petit peu plus rouges, c'est des endroits où il y a plus d'activité de formation d'étoiles. Mais voilà. Mais à l'œil nu, on peut voir vraiment beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'il faut se mettre dans un endroit particulièrement. Et puis il faut s'adapter. Ouais.
prendre le temps, en fait, l'œil humain, il met environ 15 minutes, 15-20 minutes avant de s'adapter et que la pupille se dilate suffisamment. Donc c'est vraiment important de prendre ces 15-20 minutes pour laisser l'œil, la pupille se dilater et ne pas observer son téléphone, par exemple, pendant ce temps.
Et un petit truc aussi, comme je vous disais tout à l'heure, les cônes et les bâtonnets. Donc on voit mieux si on regarde un petit peu de côté, c'est-à-dire désaxé. Et le problème des bâtonnets, c'est qu'ils ne détectent pas la couleur, ça va du noir et blanc. Donc par exemple, l'expérience, c'était juste avant, vous aviez les aurores boréales. Nous, on les voyait de Grenoble, mais quand vous les regardez, en fait, vous voyez plutôt une sorte de nuage blanc, comme si c'était le soleil qui s'était couché, c'était la fin de la journée et que c'est la nuit qui commence. Alors, plein nord, c'est pas un endroit où on le voit. Et pour vérifier si c'est des aurores boréales, vous prenez un appareil photo, même un téléphone, avec une pause un peu longue, et si vous prenez la photo, vous verrez qu'ils apparaissent roses. Vous voyez pas le rose parce que simplement votre œil n'a pas cette capacité de voir la couleur. Et ça vous permet de vérifier que c'est bien une aurore boréale que vous voyez vers le nord. Et ça, c'est quelque chose, c'est une expérience qu'on peut vraiment faire, puisque maintenant, en plus, on est au courant assez rapidement qu'il y a une activité solaire qui est apparue, et donc, du coup, on peut vérifier ça. Et voilà, si vous allez dans le Grand Nord, moi, j'ai jamais vu d'aurore boréale de mes yeux comme ça, mais elles sont tellement puissantes qu'on les voit en couleur, cette fois, avec nos yeux, quand on y est. Je sais pas si c'est ton avis. Moi, pas encore.
Nous arrivons au terme du temps. Vous avez Nico, je vous laisse quand même pour un mot de la fin quand même ou un message important à retenir sur ce sujet de la pollution lumineuse.
Alors moi j'aimerais vous poser une question, parce que vous habitez, est-ce que vous êtes dans une commune où il y a une extinction faite la nuit? Vous pouvez lever la main ceux qui... Ah ouais, ça c'est super, bon, c'est pas pour rien que... D'accord. Et est-ce que vous avez envie que ça descende encore un petit peu plus ou est-ce que vous êtes un petit peu inquiet par rapport à ça? Non mais après c'est tout à fait légitime, hein.
Donc, lorsque vous avez des communes,
ouais,
des villes qui éteignent, effectivement c'est très bien pour ce que vous venez de nous expliquer, mais il y a quand même un autre problème qui se soulève, c'est que si vous avez à rouler la nuit, ça devient épouvantable.
Oui.
Alors, l'insécurité, là, il y a un carton. Il ne faudrait pas être piéton le long d'une route ou même cycliste parce qu'il est surpassé sous la voiture.
Alors, c'est ce que j'expliquais dans les pays nordiques. Ils ont des choses réfléchissantes. Après, nous, on a eu l'occasion de discuter avec des forces de l'ordre pour savoir un peu quels étaient les impacts. Ce qu'on nous dit souvent, c'est que le nombre d'accidents n'a pas augmenté quand il y a eu des baisses des extinctions dans les villages. Par contre, la gravité des accidents a diminué. Parce qu'en fait, les gens, quand ils rentrent dans un village, comme il n'y a plus de lumière, ils ralentissent. Et donc, évidemment, s'ils ne voient pas le stop, il y a quand même l'accident. Mais c'est à vitesse beaucoup plus réduite. Et c'est quelque chose qui est important, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ces aspects-là.
Un exemple qui est flagrant, quand vous passez sur la verrue, quand tout est éteint, quand il pleut, vous ne voyez pas le temps de réticence entre ça, et en plus, vous avez des éclairages. Nous, on fait la même chose avec les autres, mais vous avez tous les feux qui vous viennent dans
la figure, hein.
Et vous avez les yeux, ça clignote de partout, vous savez même plus où vous êtes par rapport à une bande avec l'autre. Alors,
Mais du coup, on est obligé de rouler moins vite.
Voilà. En tout cas, j'espère qu'on a pu vous apporter des éléments pour y réfléchir. Pas vous donner des choses prêtes à penser, mais au moins de vous aider à réfléchir. Et on vous remercie d'avoir été ici.
Moi, pour terminer, je voulais juste vous dire un petit mot aussi sur les événements astronomiques intéressants. Il y a une éclipse totale qui aura lieu en août, donc visible en Espagne, pardon. Une éclipse totale en Espagne. Plus de 90% en France, donc ça vaudra le coup.
On reviendra avec vous, alors.
N'hésitez pas à profiter de ça et puis soyez vigilants pour les aurores, parce que le soleil est toujours très très actif, même s'il est en phase de redevenir plus calme. Et donc, on peut avoir toujours de belles aurores ensemble.
En tout cas, merci de nous avoir ouvert le débat. Au moins, on a des éléments factuels et scientifiques pour pouvoir réfléchir, justement, contribuer en tant que citoyen à ces débats publics qui sont très très importants. Donc encore merci à vous tous les deux. Pour continuer justement la découverte de la nuit, dans le programme, il y a des ateliers, notamment des ateliers pour parler de pollution lumineuse dans son jardin, parce que c'est vrai qu'on a plein de LED dans son jardin et voilà, est-ce qu'on peut améliorer ces choses-là. Donc voilà, on aura un petit atelier ici, on a aussi des observations avec les clubs d'astronomie, notamment Astron-sur-les-Monts qui est présent aujourd'hui, que je remercie, et donc qui propose des séances d'observation du ciel nocturne. Hein. Donc tout ça dans le programme, donc je vais l'emprunter. Sinon vous pouvez retrouver ces échanges sur le podcast de Questions et Consciences. En tout cas, merci à vous et à bientôt. On parlera encore nuit la prochaine fois, puisqu'on parlera des peurs nocturnes. Donc, ça sera un petit peu, on ira dans la suite et avec un psychologue qui nous parlera un petit peu de notre subconscient. Merci à vous et bon appétit et à bientôt.